Précédemment, dans le Zapnik,
après les portes de l'enfer, après les Doors, les portes de la liberté. De l'action, des clins, du suspense, des clés, de l'émotion et même un trousseau. Plus de 60 portes. Une œuvre magistrale qui déverrouille les codes. Des dialogues qui claquent. Un palier de plus dans l'histoire du cinéma. Une minute insoutenable. Trouvera-t-il la clé qui lui permettra de sortir de ce couloir ? Film pour des gens simples.
Philippe, roi des Belges, à tous, présent et à venir, salut!
Dans un monde noyé par la luxure, où les justes sont ignorés, il est de retour parmi les siens. Et il est pas là. Pardonnez. I'm back, bitches. Armageddon, le retour de Jésus. Un combat épique entre le bien et le mal, où le bien gagne et vous. Armageddon, retour de Jésus, bientôt dans votre monde, enfin, si on a raison.
Avec l'aimable soutien de Radio Culpabilité Catholique.
Il est 18h23 et c'est l'heure du journal. La Russie va changer de nom. C'est ce qu'a annoncé ce matin le président Vladimir Poutine. Vladimir Poutine souhaite transférer la première lettre de son nom de famille pour glisser ce P juste au début du nom de son pays. Il s'agira donc de parler désormais de Prussie. Un détail pour certains, mais les observateurs avisés remarqueront que ce changement syntaxique n'est pas sans conséquences. En effet, avec ce glissement de lettres, nous passons de Vladimir Poutine, président russe, à Vladimir Poutine, président prusse. Un changement loin d'être anodin puisqu'il permet à Vladimir de consolider ses visées hégémoniques et de déplacer le Kremlin à Berlin. Comme pour la demande de désadhésion britannique à l'Union européenne, la chancelière Angela Merkel s'est dite confiante dans la possibilité de trouver rapidement un accord sur l'annexion de l'Allemagne et de toute l'Europe de l'Est par la Prussie. Belgique maintenant. Le Premier ministre Charles Miquet a reçu un rapport d'audit épinglant la sécurité insuffisante de son bureau du 16 rue de la Loi ainsi que du Lambermont. Nous écoutons sa déclaration.
Ha ha ! Mais ça ne sert à rien de dépenser une fortune. La meilleure sécurité, c'est la discrétion. À mon avis, actuellement, personne ne pense que je suis Premier ministre et tout le monde croit que les bureaux du Premier ministre sont à Anvers. Ha ha !
Anvers, justement, c'est là que le président Mayer, pas Premier ministre, Bart Vador, a commémoré le 11 novembre et nous écoutons son discours.
Oui, la paix est friable et est fragile, rien. Établir la paix et maintenir la paix est bien plus difficile, rien, que commencer une guerre insensée. Je dis cela alors que le monde, rien, est à feu et à sang aux frontières de notre continent.
Il l'aurait poursuivi par une phrase énigmatique sur une soi-disant paternité refoulée. C'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal.
par un beau chapeau.
Radio Légiste. La première radio qui s'intéresse uniquement à l'actualité de la loi et du droit. 105.alinéa4terre. Philippe, roi des Belges, à tous, présents et à venir, salut! Lecture de décrets, de règlements, d'arrêtés, de circulaires, de notices, d'annexes, de décisions, de directives, de jugements et d'analyses de la jurisprudence. Une tribune ouverte sur le bon usage des termes juridiques. La légistique. L'utilisation du bon mot au bon moment et du bon renvoi au bon endroit. Nonobstant, toutefois, subisé, sans préjudice, considérant, stipule, dispose, pose, dépose, un guide dans le labyrinthe des chiffres romains, des chiffres arabes, des chiffres et des lettres, des tirets. Une émission matinale sur le point virgule, et tous les mercredis, le point sur les sorties de décrets en salle. Un suivi en temps réel de l'évolution de la norme, c'est Radio Légiste.
Et parfois, les lectures érotiques du moniteur belge.
Bon, on ne comprend pas tout ce qui se passe ici, hein, là.
L'insigne distinctif de la police domaniale est constitué du coq de Paulus. Celui-ci est en soie de couleur rouge sur un fond en soie jaune et est au centre d'un écu pentagonal de 26 mm de largeur et 30 mm de hauteur, avec double bordure en soie rouge de 1 mm. Cet emblème est dénommé insigne lorsqu'il est entouré de rameaux de laurier, le tout inscrit dans un cercle de 60 mm. De diamètre. Il est dénommé insigne 2. La poche poitrine du pan gauche des gilets, pulls, chemises, polo décrit ci-après, doit être surmontée de l'inscription police domaniale, surmontée de l'insigne 2. La poche poitrine du pan gauche des pareuses, manteau, parka, décrit ci-après, doit être surmonté de l'inscription police domaniale. Sur le col de la vareuse doit figurer l'insigne de les képis, calots et casquettes sont ornés sur le devant de l'insigne de. Les rameaux de laurier sont brodés en fil d'or pour les officiers de police judiciaire et brodés en fil d'argent pour les agents judiciaires.
Tiens, mais c'est Ginette à cheval sur sa mobilette. Viens par ici, ma poulette. Ah, te voilà, toi, yo yo. Ah, te voilà, toi, yo yo. Ah, te voilà.
La toge ou la plume? Comme chaque mercredi, je suis accompagné de mes chers collaborateurs Christine Felmuth et Guillaume Van Dem Abgral pour proposer avec vous une revue critique des différents textes normatifs qui ont été publiés cette semaine au Moniteur belge. Bonsoir.
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 Bonsoir. Alors, j'ai décidé de commencer ce soir avec un premier arrêté donc, qui nous vient du service public fédéral de l'intérieur. Donc, c'est l'arrêté royal du 11 mai 2015 portant exécution de l'article 56-6-1 alinéa 4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, établissant la liste des pays d'origine sûre. Donc j'ai choisi cet arrêté puisque pour moi c'est quand même un texte de qualité dont j'avais particulièrement apprécié la précision des renvois au droit positif. On sent pour moi vraiment la volonté d'éviter les reformulations, les redondances lors de la rédaction de ce texte.
Oui, alors Jean-Steven, moi je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Cette liste de pays
Typiquement, c'est une énumération fastidieuse qu'on souhaiterait voir disparaître. C'est assez typique du service public fédéral de l'intérieur. Finalement, c'est sans surprise, c'est fastidieux.
Je partage l'avis de Christine Feldmuth. On attend vraiment autre chose de la part d'une administration fédérale. Le renouvellement promis, en tout cas, n'est pas là. Et puis l'article 2, vraiment, mais mal fichu. On se demande ce que le deuxième alinéa du troisième article apporte à l'économie générale du texte.
Alors, je vous trouve quand même un peu dur tous les deux. Bon, pour moi, on est quand même à un autre niveau que ce qui se faisait il y a 5 ans au niveau de l'administration de l'intérieur, quand même.
Oui, bon, c'est vrai, on peut modérer un peu le jugement. Hein. Ça reste un texte digne d'intérêt, hein, mais bon, il devrait repasser quand même rapidement au second plan hein, dans cette période d'inflation législative.
Hein. Je vois pas pourquoi on serait indulgent. C'est pas possible encore en 2015 d'accepter ce genre de choses. Vraiment un texte de seconde zone qui ne mérite pas plus que le niveau de circulaire et n'avait pas sa place, personnellement, je pense, au moniteur belge, tout simplement.
Bon, je vous remercie. Moi, je vous trouve un peu dur, mais du coup, on peut peut-être passer au deuxième texte qu'on avait choisi, auquel on avait choisi de s'intéresser ce soir. Donc, c'est un texte qui nous vient du service, cette fois public fédéral des finances. Donc, c'est un arrêté royal du 28 avril 2015, modifiant lui-même l'arrêté royal du 9 juillet 2000, qui était relatif à l'émission des bons d'État. Alors, pour moi, c'est vraiment un texte que je trouve très intéressant, puisqu'il est vraiment, dans la lignée des grandes productions du service des finances. Et j'hésiterai pas à dire que pour moi, il mérite quand même une codification rapide. Hein.
Bon, allez, je laisserai la parole à Christine Feldmuth.
Oui, alors moi j'abonde dans le sens de Jean Steven. Hein. C'est un texte d'une grande concision, précis, avec une volonté claire de ne pas perdre le lecteur. Hein. Bon, ça laisse peu d'ambiguïté, peu de risque d'interprétation malheureuse. Hein. J'ai vraiment beaucoup aimé. Hein. D'ailleurs, notamment l'article d'exécution. Hein, c'est vraiment très original, hein, j'ai trouvé.
De mon côté, moi, je trouve que c'est vraiment n'importe quoi tout ça. Un texte ennuyeux, personnellement, en demi-teinte. Les finances nous avaient habitués à mieux, quoi. J'ai l'impression que ça a été rédigé par un greffier du tribunal de Namur.
Oh, quand même, Guillaume, le tribunal de Namur, je trouve que vous y allez un peu fort. Hein.
Oui, d'autant que le travail des greffiers a quand même su séduire de nombreuses fois hein, au cours des années 90. Hein. Van der Abgal est méprisant là, sur ce point.
Vous savez très bien qu'on ne peut pas habituer le justiciable à ce genre de production. Quant à la référence aux années 90, elle illustre bien la vision passéiste du droit qui a guidé la rédaction de ce texte. Donc, quand je pense que vous avez évoqué la codification, je suis atterré.
Non, moi je reste sur ma position. Je pense que c'est vraiment un texte qui mérite une codification rapide. Bon, clairement, on peut dire qu'il n'y a pas l'unanimité sur cette disposition qui est visiblement clivante. À mon avis, c'est probablement une bonne illustration des débats profonds hein, qui traversent les milieux juristes aujourd'hui. Hein.
Dans ce mètre, c'est tango d'amour.
L'insigne distinctif de la police communale urbaine est constitué par un glaive posé en pâle, la pointe vers le chef, sommet de la couronne royale, accompagné à gauche d'un rameau de chêne et à droite d'un rameau de laurier, tous deux fruités entrecroisés derrière la poignée du glaive. L'insigne distinctif de la police communale rurale est constitué d'un gland posé en pâle, la pointe du fruit vers le chef, sommet de la couronne royale, accompagné à gauche et à droite d'un rameau de chêne fruité, les bouts passés en sautoir.
Un texte provincial hein, pour changer un peu. Donc, c'est un texte de l'autorité flamande. C'est un arrêté du 20 mars 2015. Donc, cet arrêté porte classification dans les routes communales des routes régionales N19 PAS entre les points kilométriques 17.8 et 18.8, N19 DR Van der Perestraat entre les points kilométriques 14.9 et 16.5 et N71 Rijn entre les points kilométriques 0.8 et 3.0. Donc, c'est un texte qui pour moi, n'est clairement pas passé inaperçu lors de sa publication. Il faut dire qu'il était vraiment très attendu au vu des éléments techniques qui avaient pu fuiter en amont de cette publication.
Voilà, je vais prendre la parole parce que je me suis vraiment délecté avec un texte à la fois technique et qui fait en même temps preuve d'une rigueur flamande qui n'est pas dénuée de poésie. On est totalement transporté du début à la fin. Alors, vocabulaire, une ponctuation parfaite, renvoi, enfin, c'est vraiment, pour moi, un chef-d'œuvre. On aimerait en voir plus des comme ça qui soient proposés à la codification.
Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec Van der Abgraal, une fois n'est pas coutume. On sent vraiment le plaisir qu'a dû avoir l'équipe flamande à travailler sur ce texte. Rien n'est laissé au hasard, tout est précis, tout est... Ouais, très beau texte, même si bon, quand même, pour nuancer, on est là pour ça. On peut pointer quelques longueurs inutiles.
Oui, c'est vrai, je vous l'accorde, Charlotte, c'est quand même un texte qui s'attèse plutôt aux spécialistes et qui peut avoir un côté rebutant pour les néophytes. Il faut quand même avoir quelques références pour bien en saisir l'essence pour moi. En outre... il devrait quand même permettre de régler quelques affaires un peu litigieuses pour lesquelles la jurisprudence était quand même hésitante, n'est-ce pas Guillaume ?
Oui, quand ces références, on les a, alors on profite pleinement du texte, parce qu'on voit tout de suite la volonté de s'appuyer sur la décision du 13 décembre 1995 de la Cour d'appel d'Anvers, ou encore sur l'arrêt du tribunal de Gand de 2001.
Oui, je pense aussi au cas Van Fruyt contre Spreekneck, qui avait agité les tribunaux flamands en 1987. Oui. En tout cas, ce texte fait partie des 10 normes à connaître en 2015. Il va falloir vraiment que les autres administrations se surpassent pour donner vraiment autant d'envie.
Tout à fait, on peut difficilement rester insensible devant une telle maîtrise de la discipline.
Bon, en tout cas, ça fait quand même vraiment plaisir de voir qu'il peut y avoir encore des arrêtés provinciaux qui soient aujourd'hui capables de faire le consensus. Et je suis très content finalement qu'on puisse terminer cette émission sur cette note positive et vraiment une sensation de plaisir à la lecture des normes émises aujourd'hui. Donc, je vous remercie Guillaume.
Merci.
Merci Charlotte.
Merci Christian. Excusez-moi.
J'hésite un peu. Donc je vous remercie et je vous donne rendez-vous comme chaque semaine à la semaine prochaine pour une nouvelle revue critique de La Toge et la Plume, des revues critiques des normes nouvellement publiées. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Une sauterelle toute jaune.
Des cacahuètes. Cacahuètes ou cette jazz à la cacahuète.
Bienvenue dans ce masque ou la burne consacré cette semaine aux arts de la scène. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, bien sûr, j'ai commencé avec des triglycérides médium et un peu de spectinomycine aussi, et puis du phénibutazone, parfois du rocuronium, et puis plus exceptionnellement, je dois le dire, du risperidone, du pantazosine, de l'hydralazine, du gentamicine, et plus régulièrement, petit.
Docteur Hart, Docteur Hart, Docteur Hart, c'est pas Mickey Mouse.
De la polpamine, de la bérantine, de l'acide de batterie, de l'huile de vidange, de tournesol, d'arachide, de colza, de l'huile essentielle, de la farine de seigle. Voilà, c'est à peu près tout ce que je me suis mis dans le nez, dans le bras et aussi dans le pied.
Eh bien, merci pour ce précieux témoignage. Vous écoutiez Belgique, c'est Placebo. On vous laisse avec le reste de la programmation de Radio Subutex.
Patatras, nous interrompons nos programmes pour laisser place à l'actualité.
En effet, la nouvelle vient de tomber à l'instant. Le temps restera gris, mais sec dans l'ensemble mercredi après-midi.
Et oui, c'est en début de journée qu'est apparu un vent modéré.
Modéré à assez fort.
Le long du littoral, un vent qui souffle de secteur sud-ouest. Nos correspondants sur le parking le confirment, les massima atteignent 9 degrés en Haute-Belgique et aux alentours de 13 degrés en Basse et Moyenne-Belgique.
Encore plus choquant, la nébulosité sera abondante ce soir et durant la nuit prochaine, ce qui pourrait donner lieu à quelques légères précipitations, surtout sur le sud du pays.
Après de longues discussions dans notre rédaction, nous avons décidé de vous donner des informations qui, nous le savons, peuvent être anxiogènes et générer des mouvements de panique.
Mais c'est notre devoir de vous informer.
Alors voilà. Jeudi, le temps sera variable à très nuageux, mais il continuera à faire majoritairement sec. Le vent, de secteur sud-ouest puis sud, sera toujours modéré et assez fort à la côte.
De vendredi à mardi, il fera nuageux et les journées seront venteuses. La pluie fera de temps à autre une apparition. Les températures à la mi-journée avoisineront les 12 degrés. La journée de dimanche sera cependant un peu plus douce encore.
Les réactions sont nombreuses dans le monde politique et nous ne tarderons pas à leur donner la parole dans une émission spéciale à 19h.
Et j'aime les bêtes, et elles me le rendent bien.
Now,
Luigi, tu es touché.
Mario, mais regarde, j'ai plus de jambes, Mario.
Bonsoir à tous. 45e fusillade en un an sur les campus américains. Alors, pour en parler, nous accueillons Peter Flanagan.
Attaque à main armée, pour être plus précis, permettez-moi de vous interrompre.
Oui, pourquoi ? Qu'est-ce que j'ai dit ?
Bah, vous avez dit fusillade, j'ai bien entendu fusillade.
Bah oui, et alors ?
Bah, et alors ? Il me demandait alors, hein ? Comme ça, l'air de rien.
C'est à peu près ça.
Bah, et alors, il se trouve que sur ces 45 événements, hein, appelons-les comme ça, hein, pour l'instant, et par souci d'être clair, efficace, limpide, roumapoule, yeeha ! Il se trouve donc qu'il y a précisément 15 attaques à l'arme blanche, 2 à la grenade, 1 au lance-pierre et seulement 18 attaques par arme à feu. Alors permettez-moi de vous dire que votre terme de fusillade englobant tout là, comme ça, était putainement abusif.
Excusez-moi,
hein.
Monsieur Flanagan. Ouais. Mais dans votre décompte, il manque des voix. Enfin, je veux dire, ça fait pas le compte, quoi.
Ah, mais c'est bien. Hein, vous êtes attentif, hein, ça c'est très bien, ça, monsieur. En effet, je suis, sans me vanter, je crois, hein, un puriste, hein, un passionné. Les attaques à main nue, pour moi, ça compte pas. Hein. C'est un truc de putain de petite fiotte, hein, si vous me passez l'expression.
Allez-y, allez-y, Peter, c'est bien, lâchez-vous. Mais je ne suis pas sûr de comprendre.
Oui, 9.
Quoi, 9?
Il y a bien eu 9 attaques à main nue sur les campus américains au cours de l'année écoulée. Ce sont peut-être ceux-là les plus désœuvrés.
Assurément, Peter, mais permettez-moi de vous présenter Peter Flanagan, spécialiste en tout ce qui touche le grand mal de l'adolescence américaine et donc de la société américaine en général. Car qu'est-ce qu'une civilisation qui sacrifie ses forces les plus vives, les plus vides, qui ne leur propose aucun avenir, et plus en particulier, spécialiste. Peter Flanagan, vous êtes spécialiste de ces passages à l'acte d'êtres désespérés qui fréquemment surgissent dans les universités de l'Oncle Sam.
Alors là, quelle manière pompeuse et ridicule de présenter les choses.
Ah, hein, ça va, permettez-moi de vous le dire. Ça va, je fais ce que je peux. Mais permettez-moi de vous présenter également Brian. Brian, c'est vrai qu'on est un peu parti sur les chapeaux de roue, excusez-moi Brian, avec Peter. Alors Brian, nous n'avons pas trop eu le temps de faire les présentations. Vous êtes venu représenter cette adolescence américaine qui souffre, qui en a marre de tout, qui ne croit plus en l'avenir, qui vénère de nouveau Adolf Hitler, qui écrit une lettre de suicide sur son blog avant de dézinguer tout ce qui bouge au lycée, où elle était exclue et subissait insultes et colibets. C'est bien ça, Brian ?
Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Quoi, je trouve que votre propos est vachement généraliste, quoi.
Mais non, qu'allez-vous chercher là, Brian ? Ayez un peu confiance en vous, que diable, arrêtez-moi un peu cette paranoïa, fruit de votre grand isolement. Je ne sais pas, allez vers l'autre, faites-vous des potes.
Qu'est-ce que t'en sais, quoi, d'abord, que je n'ai pas de potes ? Qu'est-ce que t'en sais ?
Calmez-vous, Brian, n'allez pas commettre l'irréparable.
Mais je vais rien commettre, moi! C'est toi qui dis que j'ai pas d'amis alors que j'ai plus de 378 amis sur Facebook et plus de 87 likes à mes posts par moyenne par jour!
Ah, nous y voilà, j'en étais sûr. On croit être connecté avec le monde entier, mais en réalité, on est seul. Seul derrière son écran, tel un voile entre le monde et nous. Alors, on haït le monde entier de ne pas entendre tous ces cris sourds de détresse que l'on lâche dans le vide, la vacuité trop présente du monde des adultes qui semble sourire à vos moindres petites plaies, comme si de rien n'était, ou qui ne peut pas voir. L'on est alors seul, misère affective et sexuelle, seul avec sa verge dressée que l'on caresse d'une main leste, main maladive, hein, main tremblotante face à un écran d'ordinateur qui nous livre une représentation falsifiée et tronquée du sexe, et en dernière analyse, de ce que peut être l'amour et notre rapport au monde. Est-ce bien cela, Brian ?
C'est bien, vous faites très belles phrases, mais très beau style, mais c'est un peu stigmatisant tout de même.
Sais-tu seulement ce que veulent dire les mots que tu emploies, petit merdeux d'adolescent de merde ?
Mais ça suffit, voyons ! Je vais pas continuer à être insulté de la sorte ! Je suis jeune, certes, mais c'est pas une raison pour me prendre pour un demeuré, enfin !
Pour un ado. Je vous prends pour un ado, tout simplement.
Enfin, monsieur, il a raison, là, vous stigmatisez. Certes, le sujet de l'émission était le passage à l'acte du mal-être adolescent à la violence. Mais il s'agit d'une minorité. Il est rare, par rapport au nombre d'adolescents, que cela se produise. Quoique vos statistiques ne prennent bien évidemment pas en compte, il est vrai, les agressions domestiques, tous ces adolescents qui égorgent leur mère parce qu'elle fait trop de bruit ou qu'elle ne veut pas zapper sur Disney Channel.
Voilà, lui, il me comprend. Ils sont beaucoup plus nombreux qu'on le croit.
Mais vous n'avez pas tout à fait tort. Il y a également ce cas très étrange, celui de ce petit Bobby qui, lui, tua carrément son père parce qu'il n'était pas venu le voir à son match de baseball.
Et voilà !
Ouais, enfin là !
Oui, également cette mystérieuse affaire, mais enfin je veux dire, qu'est-ce que cela nous dit sur notre monde qu'un adolescent qui semblait calme en apparence, animé de ses pères, puisse subitement tuer sa grand-mère de 45 coups de couteau, tel un symbole, parce que celle-ci ne lui avait pas préparé ses sandwichs au beurre de cacahuète avant d'aller au bal du lycée.
Ouais, enfin là vous prenez des exemples isolés, de malades mentaux tout simplement, et il y en a dans toutes les catégories d'âge.
Est-ce que quelqu'un t'a accordé la parole, Brian?
Mais j'ai...
Allons, soyez un peu libéral mon vieux, laissez cette jeunesse s'exprimer, il faut bien qu'elle lâche un peu de lest, hein, sinon elle va nous exploser à la gueule.
Vous avez peut-être raison, mais où s'arrête leur liberté d'expression après, hein? On leur donne un bras et puis ils vous poignardent dans le dos, non merci!
Allez, détendez-vous mon petit père, c'est très rare le poignardage dans le dos, pardon. Dans la plupart des cas, à brevet de séries de jeux vidéo, ils montent directement la carotide et la schlac, hein!
Voilà, voilà, parlons-en des séries, des jeux vidéo. Ne pensez-vous pas que celle-ci pousse le jeune à la violence, Peter Flanagan?
Oui et non, je m'explique. Dans un sens, ceux-ci permettent de canaliser leur énergie, servent de défouloir, mais parfois, il arrive que le jeune confonde cette réalité virtuelle avec sa propre vie. Et là, vraiment, c'est dramatique. Enfin, ça donne ce genre de drame, hein, comme celui que nous venons de vivre cette semaine.
Peter Flanagan, pensez-vous que c'est dans la nature de l'adolescent, cette propension à la schizophrénie, cette perte de repères qui fait qu'il ne distingue plus le vrai du faux?
J'avoue que ça déborde un peu mes compétences. Alors, moi, je me base sur les faits, les statistiques, et puis j'extrapole afin d'établir une vérité générale assez floue pour être englobante. Enfin, là, j'ai pas les stats. Hein, donc, puis vous savez, moi, la philo, culture, nature, moi, ça m'emmerde un peu.
Ce n'est pas grave, Peter, ne vous battez pas la coupe. Je vais répondre à votre place. Oui. Oui. C'est même ce que certains chercheurs chevronnés appellent le gène de l'adolescence, qui se déclenche lorsque la personnalité de celui-ci est censée se constituer et établir son unité, notamment sous les effets hormonaux excités par les petites femelles de son âge, qui sont à cette même période en pleine floraison. D'où stimulus, l'adolescent agit, soit il s'identifie à cette norme sexuelle et assume pleinement ses pulsions dans la légalité, je veux dire, soit il développe une sexualité déviante basée sur la frustration et se met alors à violer à tout va, tel un jeune bouc à égorger des fillettes, à se masturber sur la place publique. C'est ça que vous voulez, Brian?
Mais je veux rien, moi! Il est fou, ce type-là! Et puis c'est quoi ces théories pseudo-scientifiques?
Ça suffit, Brian! Tu te tais! Tu prends pas la parole à table! Tu laisses le chien tranquille! Ça t'a pas suffi d'avoir tué ta mère, hein? De l'avoir fait mourir de chagrin? Ah non, ça t'a pas suffi, hein! Si ça continue comme ça, le baseball saignait. T'as compris, Brian?
Oh là là, faites quelque chose, là!
On ne répond pas!
Calmez-vous, monsieur. Ne répondez pas à ces provocations juvéniles. Dans 40% des cas, c'est aussi comme ça qu'on peut faire des...
Ta gueule! Toi, putain! Avec tes statistiques de merde! Ta gueule! Ta gueule! Et ta gueule, Brian, aussi!
Ah oui, oui, oui!
les Beatles c'est des cons et tout ça. Bon. Alors pourquoi les Beatles c'est des cons? On s'explique.
Oh yeah.
Bonsoir. Et bonsoir et bienvenue dans votre émission musicale sur l'underground, de l'underground, de l'underground. Aujourd'hui, nous recevons les Thunder Fingers of Death, le groupe de speed hardcore psychotrash metal rock mélodique dont les prestations enflammées ont beaucoup fait parler chez les connaisseurs, repoussant sans cesse les limites du genre, mais aussi, n'ayons pas peur de le dire, les limites physiques du possible. Découvrant ainsi par leur rapidité, leur précision et la maîtrise parfaite de leur technique, de nouveaux territoires à explorer, territoires vierges et sauvages dont la prospection nous révèle à chaque chanson de nouveaux paysages sonores aux vallées profondes et montagnes majestueuses que nos oreilles avides contemplent entre exaltation et ivresse, se nourrissant de ces merveilleux haïkus sonores qui sont autant de sushis pour nos systèmes auditifs. Alors les Thunder Fingers of Death, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Salut.
Eh bien, pour les néophytes qui ne vous connaîtraient pas encore, je doute qu'il y en ait beaucoup, voici tout de suite un extrait de votre premier album, Faster Than the Speed of Light, sobrement intitulé Rock'n'Roll. Magistralement interprété, surtout les harmonies de liaison, tout en legato, bien que furieusement staccato. Alors, Thunder Fingers of Death, la question que tout le monde se pose, qui, pourquoi, comment?
À 16 ans, après 15 années de solfège et de conservatoire, on s'est dit qu'on avait besoin de plus. On a bien vu qu'on était plus fort, plus rapide, meilleur que les autres.
Et qu'on connaissait super bien nos gammes.
Ouais, surtout en mi.
Bien sûr, les gammes, c'est ça qui fait un bon musicien.
Bah oui, et la rapidité. Et puis, on a trouvé qu'on n'avait plus rien à faire ici, que le monde musical traditionnel n'avait plus rien à nous offrir.
On allait déjà trop vite pour eux.
Ouais, et alors on est parti travailler notre technique au Japon, avec les meilleurs maîtres ninja du rock au sommet de la montagne des nuages sacrés de Fukushima. Et après trois mois, quand on a appris tout ce que cette culture millénaire pouvait nous apprendre, ben, on est revenu ici, partager notre musique avec le monde.
Et montrer c'est qui le plus fort.
Ouais, c'est ça.
Super, super, magnifique. Mais tout de même, ça a dû aider d'avoir Satan dans votre groupe. C'est à cette époque, je crois, qu'il vous a rejoint.
Ouais, Satan était venu nous voir en concert, on avait sympathisé, ça s'était super bien passé.
Ouais, ouais.
Et puis le lendemain, on avait répété, et Ulrich, notre ancien chanteur, ne s'est jamais pointé. D'ailleurs, je crois que c'est à cette époque qu'il a mystérieusement disparu. Et là, on frappe à la porte, et qui sait, boum, le Satan. Ça tombait super bien.
Super hasard.
Bah ouais, et en plus c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on est devenu franchement meilleur. Hein. Que ce soit au niveau des gammes, de la rapidité, ou des gammes.
Oh, merci les gars, mais vous étiez déjà vachement bons, ouais. Non mais c'est vrai, hein, ils sont vachement bons, j'ai jamais joué avec des musiciens aussi bons qu'eux, mais c'est vrai. Et je suis là depuis le début de l'humanité, hein. Et Lars, un guitariste sadique qui torture ses cordes comme personne, Vlad, le batteur le plus brutal que j'ai jamais vu, et René, un bassiste vraiment démoniaque, je me suis tout de suite senti à l'aise, intégré, c'était comme à la maison. Et puis, ils connaissent vraiment bien leur gamme.
Ouais, merci mec.
Merci mec.
Oh, vous êtes des crèmes les gars.
Merveilleux, merveilleux. Je crois qu'il est temps maintenant d'écouter un deuxième extrait de votre fabuleuse, splendide, que dire somptueuse, voire même auguste discographie tirée de votre deuxième album, Heaven Faster Than The One Before. Splendide, épatant. Là, je pense qu'un cap a été franchi. Que dis-je, un cap, c'est une péninsule. Repoussant les limites du possible, du logos musical, qui sous-tend le principe même de création harmonique, tel qu'on l'avait perçu jusqu'à présent.
Ouais, c'est clair que là, on a commencé à être encore plus fort que ce qu'on était déjà fort.
C'est sur cet album que j'ai pu dépasser le mur de l'ultrason.
Ouais, cette chanson par exemple, c'est du 354 BPM.
357.
Ouais.
Et ça t'enchante tellement vite et haut, hein, que l'oreille humaine ne peut pas percevoir ce genre de son.
Ouais, c'est tellement aigu qu'il n'y a que les chiens qui peuvent l'entendre.
Ça les fait pleurer.
Ouais, c'est con. Parce que moi j'aime beaucoup les paroles, ça parle de mes passions, la mort, la destruction et la dentelle de Bruges.
Ah ben oui, c'est dommage. Merveilleux, mais un peu dommage.
Oh, vous savez, c'est pas le plus important, les paroles.
Ouais, c'est clair, c'est d'aller vite.
Et de bien connaître ses gammes.
Ouais.
Magnifique, impressionnant. On m'annonce que l'émission touche à sa fin. Nous allons donc écouter un extrait de votre troisième et dernier album, probablement le plus abouti, le plus représentatif de cette démarche artistique, ô combien nécessaire, voire salutaire, qui est la vôtre. Le plus abouti, en tout cas, jusqu'à présent, puisqu'il n'y ni à l'air de n'avoir aucune limite à l'exceptionnelle sensibilité de votre talent. Nous écoutons Usain Bolt's Got Nothing On Me, tiré de Neutrinos Supraluminique. Alors là, superbe, majestueux, splendide, merveilleux, incroyable, somptueux, magistral, olympien, magique. Je ne sais pas plus d'écrire.
Ouais, je sais, c'est pas mal.
On avait dit que c'était impossible, mais vous y êtes arrivé. L'être humain est vraiment capable de tout.
Avec Satan, c'est clair.
Oh, les gars, merci.
Alors, les Thunder Fingers of Death, quelle est la prochaine étape? Vous travaillez, je crois, sur un prochain album?
Bah ouais, on est de plus en plus rapide, toujours. Alors, on espère faire des chansons qui vont tellement vite qu'on les entend plus du tout.
Super! C'est en effet le but ultime. Une bonne chanson de hard rock est une chanson qu'on n'entend pas.
Are you going to enjoy good music without good marijuana, huh, brother?
Say what?
Are you going to enjoy good music without good marijuana? Big bamboo, it grows good and long. The big bamboo, it grows good and strong. The big bamboo stand up straight and tall. And the big bamboo pleases one and all.
trouvé le bouton, on est à l'antenne.
Merci d'être fidèle à votre radio préférée, Breltel. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, un sujet important. La peine de mort, oui, mais comment ? Alors, pour en parler avec nous en studio, le professeur Guillotin.
Bonsoir.
Professeur Guillotin, vous luttez depuis maintenant presque 20 ans pour le rétablissement de la peine de mort. Alors, bien sûr, nous n'allons pas vous demander pourquoi. C'est évident, mais nous allons plutôt vous demander si vous êtes confiant.
Ah oui, je pense que les ardents défenseurs de la peine de mort, dont je ne suis qu'un humble représentant, peuvent avoir confiance dans un contexte national et international de plus en plus favorable à l'exécution. Des pays modèles comme les États-Unis, mais aussi plus proches et plus exotiques comme l'Égypte, nous démontrent que nos idées sont bien actuelles. Et je vois poindre, savez-vous, la lumière du jour. La lumière du jour où nos efforts seront récompensés. Et la peine capitale de nouveau, un instrument légal pour rendre leur dignité aux hommes et aux femmes qui sont tombés dans la criminalité ou la drogue.
Alors, professeur Guillotin, il y a un débat qui agite les partisans de la peine de mort. C'est de savoir si on doit appliquer une préférence nationale. Comment vous positionnez sur cette question ?
Tout d'abord, permettez-moi de remettre l'Église au milieu du pillage. Les conditions carcérales en Belgique, et là, toutes les associations gauchistes, les visiteurs de prison, le personnel de l'administration pénitentiaire vous le diront, les conditions carcérales en Belgique sont inhumaines. Dès lors, la mort, et de surcroît la peine de mort, une mort que l'on ne s'inflige pas, mais qui nous est délivrée, la peine de mort est une délivrance. Alors je comprends la logique de ceux qui prennent une préférence nationale. Effectivement, on peut penser que le criminel, avant de devenir criminel, a payé des impôts, que sa famille paye des impôts, que ses proches, ceux qui lui veulent encore du bien, payent des impôts, et qu'on pourrait alors penser à une forme de primat, de priorité qui ferait qu'on devrait tuer les prisonniers belges d'abord. Je suis opposé à cette logique pour deux raisons.
Je vous en prie.
Alors premièrement, on en revient à cette vieille rengaine de qui est belge et des débats nauséabonds que cela comporte. Alors que nous défendons la peine de mort pour des raisons humanistes. Et je vous le demande, pourquoi accorder à l'un ce que l'on n'accorde pas à l'autre ?
Mais je sais pas, parce qu'il y a un qui est belge ?
Mais écoutez-vous, cette logique amène à une forme de double peine pour les prisonniers étrangers. Une prison à deux vitesses, c'est ce qu'on veut ? Qu'ils aillent se faire tuer ailleurs ? Et dans quelles conditions aura lieu leur mise à mort ?
Justement, à propos des conditions d'exécution, pouvez-vous nous éclairer sur votre point de vue ?
Alors d'un côté, il y a bien sûr le vécu du condamné, qui est au centre de la procédure d'exécution. Et la question de la douleur, de l'étourdissement. Et les récentes images enregistrées en caméra cachée dans les abattoirs français ont montré une fois de plus que l'opinion publique est très sensible à ces questions d'abattage. Mais de l'autre côté, on ne peut plus penser en politique sans penser empreinte écologique. Alors, à l'heure où les Nations Unies organisent une conférence mondiale sur le changement climatique, il faut penser au futur de nos enfants et se demander, peut-on encore se permettre d'utiliser la chaise électrique ?
Non, Luigi, tu es touché.
Mario, mais regarde, j'ai plus de jambes, Mario.
Salut,
Dieu.
Got the club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she choose a club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she choose a club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she choose a club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she choose a working Monday night on the corner flipping hard. Made at least 3,000 on the boulevard. I've been working graveyard shifts every other weekend. Ain't got no fucking time to party on the weekend. I've been flipping in the house, making jugs on the highway. I've been riding out of state, making money like my way. I don't think that I should dance. I'm just gonna have another drink. I'm doing my stance. You know my lip pink. I lot of soda, lot. You know my gas stink. My P.O. think I'm in the house. Don't give a damn about what she think. Got the club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut, she choosing. It ain't no way, no how. I made it on my own. I made my own style. I don't think that I should stay. You know I gotta go. Been moving too fast. Don't wanna take it slow. Got the club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she Tuesday. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she Tuesday. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she Tuesday. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she Tuesday. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she Tuesday. Club going up on a Tuesday. Got your girl in the cut and she Tuesday. Got the club going up.
Et voilà, c'est la fin du Zapnik. Merci, merci. Un Zapnik plus ou moins en public. Un public participatif et c'est beau. Alors, au texte du Zapnik cette semaine, nous avons eu Aristide Comte de Chouvkov, Docteur Abgral, le généralissime Moutarde et la Libre Belgique. Aux voix, nous avons eu Florent B, Guillaume A, George Michael, Jojo Lamoule et Agatha. À la programmation musicale et à la mise en onde, Me Boy avec la proposition Nightmare and Slender, Saint Lolo, Party Favor, Jet and Jones, Tropical Ice, I Love McConnell, aïe aïe aïe. Et dans le rôle des USA, le docteur débile. Et comme on dit chez moi, à la prochaine.